L'Hippocampe, faites tremper votre cerveau tous les mardis à midi sur toutes les plateformes de podcast.
Alors tous les mardis à midi, et puis aussi comme aujourd'hui de temps en temps le vendredi à midi pour l'hippofun, pour un hippocampe un peu plus fun sur de la connaissance, des choses comme ça. Bref, les versions audio de mes autres formats, je vous les mets de temps en temps le vendredi à midi, c'est le cas aujourd'hui. Bonne écoute à vous. J'ai l'intuition que vous connaissez le sujet du jour, mais principalement parce qu'il est déjà écrit dans le titre. Salut, aujourd'hui on va parler du sixième sens et d'histoires incroyables de personnes qui ont eu des intuitions qui ont changé le cours de leur vie. Comment peut-on expliquer qu'il y a des personnes, ils ont des intuitions si fortes qui leur permettent d'échapper genre au pire scénario de leur life, pourquoi il y a certains animaux qui ressentent des choses avant qu'elles n'arrivent, mais aussi comment développer votre sens de l'intuition, qui implique donc que l'intuition existe, mais tout ça, on va parler de tout ça dans la vidéo. Je le précise quand même parce que des fois, c'est pas très clair pour vous. Dans la description de la vidéo, vous avez le chapitrage de toute la vidéo, comme ça, s'il y a des parties qui vous intéressent moins, vous pouvez sauter directement sur une autre partie. Ça, c'est un truc que j'ai mis en place depuis septembre 2020, donc vous pouvez vous y référer quand vous voulez sauter des parties. Je sais que sur les téléphones, vous pouvez le faire aussi directement à l'écran. Voilà, c'était le petit truc en plus. Likez cette vidéo, pensez à vous abonner. Loïc.
Générique.
Comment tu savais ?
Intuition, sixième science. Sixième.
T'es pas, toi, t'es
resté,
toi, t'es resté en CM2 de l'intuition. Loïc générique. On a tous déjà ressenti au moins une fois dans sa vie ce fameux mauvais pressentiment. Je crois qu'il y a un truc qui va arriver, je sais pas te dire comment. Ou alors, au contraire, le bon pressentiment du « là, je le sens bien maintenant ». Au fond de nous, c'est comme une petite voix qui semble nous guider, nous aider à prendre des décisions. Pour certains, ça va être des petites choses de la vie quotidienne. Et pour d'autres, ça va être plus spectaculaire, comme par exemple, refuser de monter dans un avion qui va décoller, réussir à rester à terre et voir que l'avion s'est écrasé.
Non, ça c'est destination finale.
Oui, et après la mort, elle les cherche et tout. Et ça, c'est une galère. Et du coup, ils en font 6 films. Tout aussi surprenant, l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Anne et qui, grâce, on va dire, à sa petite voix intérieure, a pu avoir la vie sauve. Et maintenant, j'ai envie de partager son histoire. Vous le sentiez arriver, ça? Laissez-moi donc vous présenter Anne. Anne décide de partir faire le tour du monde toute seule et dans son aventure, elle choisit de faire une petite escale en Sicile, à Palerme, pour y faire du bénévolat. Donc Anne est plutôt sympa. Le 3 juillet 2019, jour de son anniversaire qui approche à grands pas, elle se dit « je vais faire quelque chose d'un petit peu plus atypique, je vais aller faire une rando sur le volcan Stromboli au nord de la Sicile dans les îles éoliennes ». Rien à voir avec les éoliennes qui tournent, c'est pas des îles qui tournent en faisant… rien à voir. Comme elle n'a pas envie de passer sa journée d'anniversaire toute seule, elle s'inscrit sur une plateforme de mise en relation entre voyageurs et gens qui habitent là-bas, les locaux. L'idée c'est de trouver un lieu à proximité du volcan pour y dormir quelques jours avant son anniversaire. Elle va sur internet. Elle cherche, elle attend, elle fait la connaissance de Massimo. Massimo qui accepte généreusement de l'héberger du 1er au 4 juillet. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, Massimo lui propose de lui-même de faire une balade sur le volcan qu'il connaît comme sa poche, alors que dans sa recherche, elle n'avait pas encore dit qu'elle voulait faire une balade sur le volcan. C'est fou la vie. Donc tout organisé pour son périple à venir. La veille de son départ pour le nord de la Sicile, elle commence à ressentir quelque chose un peu particulier, comme... on pourrait dire un malaise à l'intérieur d'elle-même et elle se demande si elle doit vraiment aller au volcan le lendemain comme prévu ou finalement changer ses plans et rester là où elle est. En gros, sa raison lui dit d'aller chez Massimo parce que tout est organisé, parce qu'il a l'air très sympa, il n'y a rien à signaler. Mais son intuition lui dit « n'y va pas, c'est pas bon ». Du coup, elle est hyper embêtée parce que tout simplement, c'est pas dans ses habitudes d'annuler quelque chose d'une manière irraisonnée du jour au lendemain comme ça et puis sans explication à fournir. Cette petite voix qui tourne en boucle dans sa tête, elle n'arrivera pas à la faire taire, elle n'arrive pas à penser à autre chose que ça. Alors pour se changer les idées et pour faire un choix, elle décide d'aller se balader, de prendre l'air, de marcher un petit peu. Et là, il y a un homme qui sort de nulle part, qui vient vers elle et qui commence à lui parler en lui demandant son prénom, ce qu'elle fait ici. Et ce monsieur lui dit, il faut absolument aller à San Vito lo Capo, c'est magnifique là-bas. Comme vous pouvez voir sur l'image, ça a l'air plutôt sympa. Anne prend cette phrase comme un signe, pas l'oiseau, hein, comme un signe de la vie, et décide donc d'annuler le séjour chez Massimo et d'aller à San Vito lo Capo. Forcément, Massimo, il est déçu, mais bon, ça va, il n'avait pas prévu non plus, ça va, c'était une balade aussi, quoi. Non. Le lendemain, Anne est complètement apaisée, parce qu'elle sait qu'elle a fait le bon choix au fond d'elle, mais elle ne sait toujours pas l'expliquer. Le 3 juillet, jour où elle devait se rendre sur le volcan avec Massimo, elle reçoit un message de son oncle qui lui dit « Dis donc, t'as bien été inspiré de changer tes plans. » Elle se dit, c'est-à-dire ? Eh bien, en effet, ce jour-là, le Stromboli entre en forte éruption. Il y a eu un mort et malheureusement, il s'agissait de Massimo. Et elle devait être avec lui ce jour-là, à la base. C'est un peu ouf, cette histoire, quand même. Alors, la grande question, est-ce que c'est une intuition ou est-ce que c'est une synchronicité ? C'est-à-dire un hasard remarquable, un truc qui fait qu'on le remarque. Si elle se trouve, elle a annulé plein d'autres choses dans sa vie où il n'y a pas eu d'éruption non plus. Mais c'était peut-être pas sur des volcans non plus. Le psychologue Guillaume Rappé explique que l'intuition passe par nos perceptions. Ça se manifeste donc par nos émotions. Souvent, il y a un conflit entre notre logique, celle qu'on réfléchit avec des arguments, et notre ressenti qui passe par l'émotionnel. Une espèce de dissonance entre notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Et je fais, tiens, une petite parenthèse, des fois vous me dites « Oui, mais ça n'existe pas vraiment le cerveau droit, le cerveau gauche ?» Oui, j'en parle comme illustration, grosso modo, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le fait que non, il n'y a pas le cerveau droit qui contrôle toute une partie, le cerveau gauche toute l'autre partie. Bref, fin de la parenthèse. Une dissonance donc contre la partie du cerveau qui gère la raison et l'autre qui gère les émotions. Et là, elle a plutôt bien fait d'écouter son ressenti quand même. Je suis tombé sur une deuxième histoire qui est tout aussi folle, si ce n'est plus, c'est celle de Paul. Dans les années 80, Paul s'est lancé dans une aventure un peu particulière, remonter l'Amazone sur un petit rafio. Voilà. Tu fais quoi toi dimanche, Loïc ?
Je me touche.
Il faut une fin à cette phrase, hein ? Les orteils, bien sûr. Et bien pendant que tu te touches les orteils, il y en a qui décident de remonter l'Amazone sur un petit rafio, un voyage de 8 jours environ, donc dans des conditions qui sont pas au top, mais de base. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Oui, je remets mes lunettes sans les avoir enlevées. Un jour, Paul a la mauvaise idée de manger de la viande cuisinée à bord, donc sûrement pas très fraîche et qui est pas très bien conservée. Et donc il tombe malade, il est pris d'une énorme fièvre. Et c'est pas le seul, c'est une vraie intox alimentaire. Donc il y a quelques personnes sur le bateau, ils sont tellement intoxiqués qu'ils meurent de ça. On parle quand même d'une grosse intox. Une nuit, alors qu'il est complètement fiévreux et délirant, Paul rêve de sa grand-mère, qui représente pour lui une figure maternelle protectrice. Et dans son rêve, elle lui recommande de manger des bananes. Elle lui dit « Mange des bananes ». Du coup, lui, il se réveille, il se souvient de ça, il mange des bananes et elle lui redonne des forces. Jusque-là, tout va à peu près bien. Un peu ce qu'on peut appeler un remède de grand-mère. L'équipage avance et arrive tant bien que mal à
Manaus,
qui se situe au Brésil. Bon, ils arrivent là-bas même si quand même tout le monde se sent un peu faible et malade. La nuit suivante, Paul rêve une fois de plus de sa grand-mère, qui lui ordonne de ne pas prendre le bateau. En soi, il s'agit que d'un rêve. Mais Paul a une intuition très forte qu'il ne doit pas retourner dans le bateau. Du coup, il prend l'avion le lendemain pour rejoindre Brasilia. Et il s'avère que ce jour-là, un événement fait la une des journaux, le naufrage du bateau que devait prendre Paul, hein, avec la mort d'une dizaine de passagers. Il témoigne et explique les choses de cette manière.
« Je pense qu'à l'aller, j'avais noté inconsciemment tous les éléments inquiétants du bateau et dans le délire de ma fièvre, l'image de ma grand-mère, qui est un symbole chez moi de protection de mon enfance, a cristallisé mon intuition de manière si forte que je n'ai pu faire autrement que de suivre cet avertissement. En tout cas, je n'oublierai jamais cette histoire. »
Et c'est ouf, parce que nous aussi, du coup, on va pas oublier cette histoire. Mais du coup, ça vient d'où ce genre d'intuition ? On a quand même un petit élément d'indice dans sa réponse. Directeur de l'Institut de recherche Max Planck à Berlin explique que l'intuition, c'est comme une forme d'intelligence. Une intelligence qui exploite les capacités évoluées du cerveau et qui repose sur les méthodes empiriques qui nous permettent d'agir rapidement, avec une exactitude étonnante. Notre cerveau, dont on ne connaît pas grand-chose en réalité, a accès à des facultés qui se développent depuis des millénaires pour garantir notre survie. Pour lui, l'intuition serait donc une forme d'instinct. Et c'est pas illogique. Qui est scientifique et professeur en psychologie intégrale et transpersonnelle, a donné le nom d'activité prédictive anticipatoire à ce genre de phénomène d'intuition. Et tout est dans le nom. L'intuition serait une forme d'anticipation et de prédiction. Des instruments de mesure indiquent des changements dans le système respiratoire, cardiaque et pulmonaire quelques secondes avant qu'un événement dangereux se produise. C'est un peu comme si le corps savait inconsciemment qu'il allait se passer quelque chose. Par contre, cela s'applique seulement à une partie de la population.
Ah mais c'est comme le Spider-Sense.
Ouais, exactement.
Spider-Man, il a ça juste avant.
J'ai l'impression que ma pizza va être en retard. Exact. Et si je vous disais que les animaux, eux aussi, peuvent avoir des intuitions ? C'est ce qui s'est passé pour Emma Grezet, qui, grâce aux intuitions de sa chienne Joy, peut anticiper ses propres crises d'épilepsie. Voici donc l'histoire d'Emma, Emma étant épileptique depuis qu'elle est toute petite. Les crises d'épilepsie peuvent se manifester par des tremblements incontrôlés, des convulsions, voire des hallucinations sensorielles chez certaines personnes. Et c'est assez handicapant dans la vie de tous les jours, évidemment. Dès qu'Emma a rencontré ce chien, un berger australien dans un élevage canin, elle ne savait pas pourquoi expliquer, elle a choisi ce chien et pas un autre. Elle a été attirée instantanément par lui. Est-ce que c'était un pressentiment? Bon, on ne sait pas. En tout cas, très rapidement, après avoir adopté le chien qui s'avère être une femelle, donc la chienne, elle remarque un comportement étrange à certains moments. Emma explique que lorsqu'une de ces grosses crises d'épilepsie arrive, Joy, la chienne, se montre très énervée. Elle la tire par la manche, par le pantalon, elle s'accroche à elle, elle commence à lui mordiller le bras, à tourner autour des gens qu'il y a autour, à leur tirer les vêtements, etc. D'ailleurs, lors d'une crise qui arrivait en pleine nuit, Joy a tiré sa couette jusqu'à l'autre bout de la chambre et ça, c'est sa manière de prévenir Emma qu'il va se passer quelque chose de pas cool. Ce qui est fou, c'est qu'en moyenne, Joy la prévient 15 à 20 minutes avant la crise. Donc c'est pas Joy qui a commencé à convulser la chienne qui voit ça. Et ça permet au contraire à Emma de se mettre dans un endroit calme, en sécurité, le temps que la crise arrive, monte et que ça se passe. De base, Emma n'avait pas du tout adopté Joy comme un chien d'assistance, mais au fur et à mesure du temps, ça l'est devenu, à cause de ses capacités juste incroyables.
Hey Fabien, du coup on peut dire que cette histoire, elle a du chien.
Et sinon, y a aussi l'intuition qui peut annoncer la mort. Et alors là, c'est moins fun, mais assez perturbant pour qu'on en parle dans cette vidéo. Vous avez déjà peut-être entendu parler, il s'agit d'Oscar, le chat qui prédit les morts. Depuis plusieurs années, donc, ce cher Oscar accompagne les patients jusqu'à leur dernier souffle, leur dernier moment dans le centre Geriatrique Steer House à Rhode Island aux États-Unis. Bon, il est là, il vit sa vie de chat, et puis d'un coup il renifle, il va rendre visite à un patient, il se recroqueville à ses côtés. Et ça, tu te dis « Oh, il est trop mignon, le petit chat et tout !» Et bien, c'est un signe de la mort imminente de la personne. Et c'est ce qui pousse les médecins à appeler les familles pour organiser une dernière visite, si jamais vous voulez passer, parce que là, c'est… Et en vrai, statistiquement, le chat aurait reproduit ce schéma pour 50 patients, ou plus de 50 patients. C'est donc pas très hasardeux. Alors après, on peut se dire, oui, mais statistiquement, dans une maison de retraite, à un moment donné, oui, mais il va pas rendre visite comme ça tout le temps. Il a pas ce comportement-là, d'une manière générale, en fait. C'est juste qu'à chaque fois qu'il a ce comportement-là, alors il se passe un décès. Ouais. Mais après, c'est le deal, c'est... si c'est ton heure, c'est ton heure. C'est-à-dire que même s'il arrive dans ta chambre et que tu dis « Eh ben non, je me lève, je m'en vais, qu'est-ce que tu vas faire ?» Ben là, c'est destination finale, quoi. T'as le chat qui te court après et tout, et tu passes quand même. Alors, ça s'explique comment ce phénomène d'intuition chez les animaux. Certains chiens seraient capables de détecter le changement de rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, et certainement de sentir certaines odeurs qui, pour nous, humains, sont imperceptibles. Il faut savoir qu'un chien possède un flair 10 000 à 20 000 fois plus développé que celui de l'homme. Ils sont d'ailleurs en capacité de détecter des cancers puisque les cellules cancéreuses émettent moins de molécules odorantes. Donc ils voient où est-ce qu'il y a des, au contraire des manquements d'odeur et ils disent ici, là, il y a cancer peut-être. Ouf. Le chat, quant à lui, a un odorat encore plus développé que le chien. L'être humain, il a environ 5 millions de cellules olfactives, le chien, il en a environ 150 millions et le chat, plus de 200 millions.
C'est complètement ouf cette histoire.
Ouais.
Par rapport à... Ouf.
C'est une histoire qui a eu lieu au milieu, de... plutôt fin de l'été, milieu du deuxième mois de l'été, vers la mi-août. Donc au final, pour les animaux, c'est un peu d'intuition avec de la capacité physique, mais si ça se trouve, c'est ces capacités physiques-là que nous appelons l'intuition. En tout cas, c'est assurément un peu des deux, en fait, parce que ce ne sont pas tous les chats et tous les chiens qui vous préviennent de tous les dangers ou d'une mort imminente non plus. Pour ma part, et sans me baser sur aucune étude ou aucun travaux, je crois personnellement que l'intuition, c'est la somme, en fait, de toute notre mémoire et toutes nos expériences de vie qui ont été accumulées par le cerveau, par l'inconscient, par le conscient, dans toute la mémoire, et qu'à un moment donné, il y a une situation qui se présente et on se fait une déduction inconsciente de cette situation via nos expériences, et que notre cerveau nous envoie un petit
« je crois que ça ». Je ne sais pas trop te l'expliquer, mais je crois que ça, parce que j'ai tous ces schémas-là en tête.
Et je pense qu'on appelle ça l'intuition. Ça ressemble à des choses qu'on a vécues, et notre cerveau calcule plus vite, inconsciemment, on va dire, que les choses dont nous, on a conscience. Et vous, comment vous pouvez développer votre petite voix à l'intérieur de vous, par exemple ? Là, par exemple, vous avez peut-être eu une intuition, une bonne intuition qui pourrait se compléter avec un truc très raisonnable, comme le fait d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos ou de liker cette vidéo si elle vous plaît. Voilà, ça c'est un like, ça c'est un abonnement, ça c'est une cloche et l'ensemble est gratuit, donc faites-le. J'ai l'intuition que ça m'aide pour les vidéos. Et blague à part, apparemment, l'intuition s'améliore avec l'âge, ce qui marche avec ma théorie de l'expérience. Plus vous avancez dans le temps, plus vous assimilez des expériences, plus votre cerveau donc il est entraîné. Et puis, c'est tout bête dit comme ça, mais il faut se faire confiance un petit peu. Les personnes très rationnelles ont tendance à avoir des blocages, des espèces de peurs, d'angoisses, de doutes qui les empêchent d'écouter cette petite voix intérieure qui est donc un peu irrationnelle puisque c'est une conclusion non étayée. Pourtant, il n'y a rien de magique dans tout ça. C'est une sorte de sens à développer chez soi. Pour ça, il faut d'abord se libérer de toutes les idées reçues et blocages qu'on a à l'intérieur de nous. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a souvent un conflit entre le rationnel et la partie intuitive. L'enjeu, c'est de laisser un peu plus de place à cette intuition pour la laisser se développer sans éteindre le rationnel. En bref, il faut accorder de la valeur à cette intuition quand elle pointe le bout de son nez, et ça commence par des petites choses du quotidien. Parce que bon, l'intuition, ça ne veut pas toujours dire échapper à la mort ou éviter des situations dangereuses. Heureusement, il y a des intuitions qui sont moins spectaculaires, mais assez courantes dans notre vie de tous les jours, dans le cadre de notre travail, etc. Et on s'en rend pas forcément compte dans l'instant parce que c'est un mécanisme automatique. Par exemple, j'ai l'intuition que je dois changer de travail, je le sens au plus profond de moi-même, je suis pas à l'aise avec ça, je sais pas dire pourquoi, mais je le sens. Ben, l'intuition, c'est ça aussi. Auteur d'un livre sur le sujet, explique comment mettre son intuition en pratique. On peut d'ailleurs faire de petites expériences pour tester son intuition. Par exemple, en choisissant un bar pour lequel on a le meilleur ressenti pour aller boire un verre et voir par la suite comment ça se passe sur place et si ça correspond à notre intuition. Vous pouvez aussi faire de la méditation pour développer cette intuition. Et puis en plus, la méditation, ça aide à la gestion de la douleur, comme vous pouvez le voir dans une vidéo qui est passée il y a quelques temps. L'idée étant d'écouter ce qui vient de vous et de se concentrer sur l'instant présent. N'hésitez pas à prendre un carnet, à noter toutes les intuitions que vous ressentez et d'écrire lorsque ça s'est révélé être bon ou être mauvais. Est-ce que vous aviez plutôt bon ou pas bon dans vos intuitions? Et j'ai bien envie de vous poser une autre question. Dites-moi en commentaire quelle est la plus grande intuition que vous avez jamais ressentie.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous mardi à midi pour le prochain Hippocamp et un autre vendredi à midi pour le prochain Hippofun. N'oubliez pas de vous abonner, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes. Si vous voulez laisser un commentaire également, avec grand plaisir. Et puis, vous pouvez laisser les 5 étoiles, la bonne note qui référence bien sur les plateformes, en particulier si vous êtes sur Apple Podcast. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.